La 12e édition des Semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole se déroule du 8 au 29 mars. Radio Ondaine, partenaire média de cet événement, vous propose sur son antenne une série d'interviews, de reportages, de rencontres autour des différentes manifestations organisées pour ces Semaines de l'égalité. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter un entretien avec Caroline Puig-Grenetier, réalisatrice du documentaire Le silence des justes, qui sera projeté en sa présence le mardi 19 mars à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
Alors, effectivement, votre film documentaire Le silence des justes est programmé à la Cinémathèque à l'occasion donc de ces Semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, une séance à laquelle vous allez participer. Alors, les spectateurs présents auront l'occasion de vous rencontrer, mais on s'était dit ici sur l'antenne de Radio Ondaine, pourquoi pas, de proposer un petit portrait, une petite rencontre avec vous. Alors, Caroline Puig-Grenetier, qui êtes-vous ? Tiens, comment vous vous présentez ?
Oh, je me présente comme quelqu'un qui essaye de raconter de belles histoires en s'appuyant sur la réalité, sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe actuellement.
Alors c'est un peu la fonction que l'on entend avec ce titre-là, réalisatrice de documentaires. Documentaires, ce sont des histoires documentées qui sont ensuite montées pour être soit vues, soit entendues. Hein, ça dépend le média qu'on utilise. Quel a été le déclic ? Pourquoi se met-on à réaliser des documentaires ?
Oh, ça c'est une longue histoire. Au départ, j'aurais rêvé d'être écrivain. Après, j'ai commencé ma carrière dans le cinéma, en réalisant un long métrage d'ailleurs. Et puis après, je me suis lancée dans le documentaire sur un film, parce que j'en avais l'opportunité. Et j'ai trouvé ça juste passionnant. J'ai fait, je sais pas, peut-être au moins 60, peut-être 70, je sais plus, films documentaires. Et j'appelle ça en fait toujours mon voyage au pays des hommes. Et j'ai jamais lâché ce style de travail. Parce que c'est très différent quand même du cinéma. Ça demande beaucoup de travail, mais un peu différemment. Et on s'appuie sur le réel. On essaye, enfin, en tout cas, moi, j'ai une ligne directrice qui est très claire. C'est d'aller chercher ce qu'il y a de beau et de le mettre en avant. J'ai découvert ça après de nombreux films. Je m'étais pas dit, tiens, je vais travailler comme ça. Mais en regardant finalement ma filmographie, je me suis dit que ma vraie façon de travailler et mon engagement à moi, à ma toute petite échelle, c'est d'aller chercher ce qu'il y a de beau, ce qui se passe d'intéressant, ce qu'il y a de riche chez l'humain, et de le mettre en avant. Voilà, donc je crois que j'ai essayé de résumer un petit peu.
Alors, dans votre catalogue, entre guillemets, de vos productions, ces documentaires-là, on entend bien que c'est l'homme qui est au centre, l'homme, l'humain, l'être humain. Quels sont les thèmes que vous avez abordés et puis, est-ce que vous avez des thèmes de prédilection ?
L'être humain et aussi les animaux. J'ai fait plusieurs documentaires en hommage aux animaux que je considère comme nos frères. J'ai fait aussi beaucoup de documentaires sur les chevaux, plus particulièrement, qui est un animal infiniment intelligent à mes yeux et infiniment sensible. Et puis donc j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire en particulier. Je me suis beaucoup intéressée à la Grande Guerre. Notamment à travers un écrivain que j'aime énormément qui est rentré au Panthéon il y a 2 ans qui s'appelle Maurice Genevoix qui avait eu, comme il le dit lui-même, l'immense chance de pouvoir survivre à cette boucherie et qui en a profité toute sa vie. Il était un normal sup à l'époque, il a tout arrêté pour être écrivain et pour d'abord honorer ses frères d'armes et puis honorer la vie, honorer la nature. Et voilà, donc j'ai fait un film sur lui. J'ai fait beaucoup de films aussi, finalement, sur la spiritualité, parce que ça m'intéresse. sur des personnages extraordinaires comme Charles de Foucault, comme Teilhard de Chardin, par exemple, pour citer que. Voilà, je sais même plus, j'ai fait tellement de documentaires, mais voilà, il y a cette unité-là qui intervient.
Et ce que vous présentez prochainement à l'occasion de cette semaine de l'égalité, c'est le silence des justes. Alors ces justes-là sont ces hommes et ces femmes qui sont engagés au Chambon-sur-Lignon, qui sont engagés contre un ennemi, contre une injustice, contre un génocide, et pour sauver des personnes, d'autres êtres humains. Alors ces justes-là, comment vous les avez rencontrés en fait? Alors, comme tout le monde, on en entend parler ici, on est géographiquement proche. Pour vous, la première rencontre avec ce mot « les justes », ça remonte à quand? Est-ce que vous avez peut-être un moment clé?
Oui, mais alors c'est un moment qui remonte quand j'étais toute petite et je ne savais pas la signification du mot « juste ». Pour faire court, je le raconte d'ailleurs dans mon documentaire, j'allais avec mon amie Eliette dont les parents avaient une ferme, à côté de la petite ferme aussi de mes parents où j'étais en vacances. Et on allait garder les vaches toutes les deux. À l'époque, on allait garder les vaches, on ne les laissait pas toutes seules. Et on descendait un petit chemin et on attendait que sa maman tourne le dos pour monter sur les vaches et bien rigoler. Et ce chemin s'appelait le chemin du juste. Voilà. Et je ne me suis jamais posé la question, hormis pour me dire, chouette, quand on va sur le chemin du juste, on va rigoler. Et puis, longtemps après, j'ai évidemment entendu parler, ça va de soi, du sauvetage de ces personnes juives. Et les choses se sont rencontrées assez curieusement, mais moi je pense qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. En fait, au départ j'ai fait un film sur les 100 ans du maillot jaune pour France Télévisions, qui s'appelle « La quête des braves ». Et qui racontait l'histoire des 100 ans du maillot jaune. Et parmi ces maillots jaunes, il y avait un monsieur extraordinaire qui s'appelle Gino Bartali, qui est un coureur italien qui a gagné le Tour de France avant la Deuxième Guerre et après la Deuxième Guerre, et qui est donc un héros en Italie et même partout dans le monde. Et en fouillant sur les différentes histoires que je cherchais à rencontrer de ces coureurs, j'ai découvert que Gino Bartali avait caché des papiers dans les tubes de son vélo de personnes juives et évidemment se servait de son aura pour aller tranquillement, il mettait sa vie en danger, mais voilà, pour transporter ses papiers et sauver des personnes juives. Et donc, quand on a commencé, alors j'ai absolument voulu faire ce film, et il y a une chaîne de télévision avec qui je travaille beaucoup, qui sont très ouverts, qui s'appelle KTO, qui font des films à portée spirituelle, mais pas seulement. Et donc, ils m'ont suivi sur ce documentaire. Et c'est tombé à l'époque où il y avait le Covid et où on n'avait plus le droit de bouger. Et donc, j'ai dit, on peut pas aller en Italie, comment on va faire? Et je connaissais évidemment bien le plateau de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Et j'ai dit, ça ressemble un petit peu là où habitait Monsieur Gino Bartali, on va aller tourner là-bas. Et donc, on a tourné là-bas avec un ami à moi qui s'appelle Didier Roustin, qui est un grand cycliste lui-même et en plus qui ressemblait à Gino. Et on a fait beaucoup d'images de fiction et... Évidemment, je me suis retrouvée catapultée sur cette terre qui est bien sûr la terre des justes et ça avait double sens. Et là, je suis allée donc au lieu de mémoire dans lequel j'avais jamais été avant et j'ai rencontré Madame Eliane Vauquier et d'autres personnes qui avaient fondé ce lieu de mémoire. Et donc, évidemment, je me suis imprégnée de ce qui était fait. Je recommande à tout le monde d'aller voir ce lieu de mémoire qui est absolument incroyable. Et j'ai découvert cette histoire en profondeur. Et j'ai dit à Eliane, c'est inimaginable qu'il n'y ait pas eu de film fait sur cette histoire. Comment c'est possible, en fait? Et donc, évidemment, ça faisait complètement écho à mon désir de raconter les belles choses. Et du coup, aidée par un grand historien du Chambon qui s'appelle Monsieur Gérard Bollon, et puis par Eliane qui m'a fait aussi rencontrer donc Aziza Grill-Mariotte, qui est une des historiennes qui a organisé le lieu de mémoire, de Monsieur le grand historien Patrick Cabanel, de Monsieur Boris Cyrulnik, que j'ai eu l'immense honneur d'aller rencontrer chez lui à Toulon. Et donc, avec toutes ces personnes, on a raconté cette histoire. Et évidemment, j'avais beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauvé là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont plus connus, d'autres qui sont moins connus. Des pasteurs, évidemment, comme le pasteur Trocmé, qui est maintenant ancré dans l'histoire du Chambon et du Plateau. Mais il y a eu beaucoup d'autres pasteurs aussi. Il y a eu des gens de toute catégorie sociale, des croyants, des non-croyants, beaucoup de protestants, bien sûr. Et je me suis dit, comment faire honneur aux uns plutôt qu'aux autres? Comment on va faire? Et puis un jour, j'étais avec des chevaux, et tout d'un coup, l'idée a jailli. Je me suis dit, mais on va parler en fait du silence. Parce que ce qui correspondait à ces justes, et ce que j'avais vécu finalement avec Gino Bartali, c'était le silence. Pour revenir à Gino Bartali, il disait, il y a des médailles qu'on accroche à son âme, pas à sa veste. Et Gino avait jamais, jamais, jamais voulu parler de son histoire jusqu'à sa mort. Et c'est sa fille, longtemps après, qui quand même s'est dit, c'est dommage, et qui a fait découvrir cette histoire. Et maintenant, Gino est au mémorial de Yad Vashem. Et donc, je me suis dit, on va faire la même chose pour les justes du plateau, du Chambon-sur-Lignon, mais pas seulement, de Tence, de Saint-Agrève, du Mazé, de Faille-sur-Lignon, de plein de petits villages autour. On va raconter pourquoi ce silence et comment à un moment la parole prend le pas sur le silence, parce que c'est pas facile en fait.
Alors c'est effectivement difficile de demander de témoigner, de raconter. C'est difficile aussi de raconter une vie de personnes qui sont décédées aussi, qui ne sont plus là. Et cet angle-là, avec ce titre, Le silence des justes, il se traduit comment sur le documentaire? C'est un 52 minutes, me semble-t-il. Est-ce que ce sont des plans aussi qui laissent part à l'imagination du spectateur? Expliquez-nous un peu voilà, comment on construit ce documentaire-là quand on part d'une idée de silence aussi.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je vous disais, le silence, c'est vraiment pour raconter l'humilité de ces gens-là. En fait, on est dans une société où beaucoup de gens sur les réseaux, tout ça, se vantent de rien, en fait. Et puis même s'il y a des choses à dire, finalement, c'est rien par rapport aux justes qui ont sauvé des vies au péril de la leur, sans aucune autre raison que d'avoir du cœur et quelquefois la foi. Et donc, c'était très important d'honorer ce silence. Et on en parle, les témoins en parlent souvent. Monsieur Boris Cyrulnik, qui a été lui-même un enfant sauvé et qui a vu sa famille périr, en parle très très bien. Et pour honorer en images, parce qu'on fait du documentaire et qu'on n'est pas seulement en audio, bien que j'adore l'audio, je suis retournée donc sur ces lieux et j'ai été filmée plein d'endroits à différentes saisons, au printemps, en automne, en hiver, en été, et filmée des endroits où il s'était passé quelque chose pour que le spectateur ait le temps de s'imprégner, mais aussi de se projeter en fait dans ces endroits. Et il y a vraiment pour les gens qui verront le documentaire à la Cinémathèque, qui peuvent aussi le voir en ce moment d'ailleurs sur France Télévisions, puisqu'il est aussi reprogrammé sur le replay. En fait, chaque lieu n'est pas filmé au hasard. J'ai pas juste filmé des coins en me disant « bah tiens, c'est très beau, on va… » Voilà. Chaque lieu a vraiment été répertorié. Des lieux sont proches du Chambon, des lieux sont éloignés. Il y a bien évidemment mon cher chemin du juste, où j'allais quand j'étais petite, qui fait un peu aussi office de lien avec tout ça.
Alors, ces lieux-là qui sont filmés, pour nous donner une petite idée, pour traduire radiophoniquement, oui. Ce sont des plans qui mouvants, des plans statiques. Est-ce qu'on a un peu de son quand même? On parle de silence, mais le silence, c'est peut-être aussi le son de la nature, l'environnement. Oui. Voilà, expliquez-nous un peu la technique du professionnel pour faire parler les images.
Oui, oh, Quand vous parlez de silence, en fait, c'est cette respiration de la nature. Et vous l'avez très bien dit. Donc, bien évidemment, il y a des moments où on n'entend que la nature, tout simplement, le froid en hiver, voilà. Et puis, il y a des scènes qu'on a suggérées en reconstituant. Par exemple, des gens qui se sauvent ou qui étaient aidés par les gens qui organisaient les réseaux de fuite vers la Suisse ou les réseaux pour aller dans un premier temps cacher les personnes et notamment les enfants. Donc, on a reconstitué sur ces chemins en suggérant avec le son beaucoup et aussi les images. Alors, donc, certaines images sont plutôt très contemplatives avec des plans plutôt fixes et comme de la photo, mais de la photo, j'allais dire, en mouvement. Et puis d'autres plans, au contraire, sont vraiment en caméra suggestive, comme si on était à la place de personnes qui sont en train de marcher, qui sont en train d'aller se cacher, qui sont en train de se sauver, ou qui regardent par la fenêtre. Je pense notamment à une ferme, par exemple, où une dame m'a ouvert la porte de la ferme de ses parents, qui sont des justes. Et pour vous dire l'humilité, d'ailleurs, elle n'a pas voulu qu'on cite le nom de ses parents. Parce que, pour ses parents, ils avaient fait ça d'une manière tout à fait naturelle et qu'il était hors de question de se mettre en avant. Mais elle m'a quand même ouvert la ferme, donc, de ses parents. Et à l'intérieur, c'est extrêmement poignant. Il y a une trappe qui est restée. Donc, on a ouvert, comme si quelqu'un l'ouvrait pour aller se cacher. Et effectivement, sous cette trappe, il y avait une cave et dans lesquelles les enfants allaient vite se cacher quand il y avait des visites de la Gestapo ou des nazis.
Alors, pour faire un peu écho aux mots que vous venez de dire et l'humilité, par exemple, de cette dame qui ne voulait pas citer le nom de ses parents, votre travail de documentaire, c'est aussi aller chercher des informations. Alors, aller chercher au lieu de mémoire, par exemple, qui regroupe un certain nombre de documents, chercher sur des témoins directs. Comment on met la frontière entre, je parle d'un sujet, j'ai envie de creuser ce sujet-là, mais je ne veux pas rentrer non plus dans l'intimité de personnes qui ont des parents qui ont été, comme vous l'avez dit, qui ont juste agi en tant qu'humains et normalement sans vouloir se mettre meilleur, être meilleur que les autres. Est-ce qu'on se freine des fois en tant que réalisatrice de documentaire en disant non, je vais pas aller trop loin dans l'intimité?
Oui, on se freine. En fait, plus qu'on se freine, on respecte. En fait, ça s'est fait en deux fois. D'abord, comme je vous disais, le lieu de mémoire qui maintenant fait partie du mémorial de la Shoah est vraiment un endroit incroyable où ils ont récupéré des centaines de témoignages auxquels on peut avoir accès, en tout cas auxquels j'ai pu avoir accès. Donc de lettres, notamment des lettres qui ont été envoyées par les personnes juives qui avaient été sauvées pour témoigner de ce qu'avait fait telle ou telle personne et pour que ces personnes puissent être reconnues comme justes parmi les nations et avoir évidemment leur place au mémorial de Yad Vashem. Donc, j'ai eu accès, si vous voulez, à plein d'histoires. Et en fait, la difficulté, c'était évidemment de me dire pourquoi cette histoire et pas celle-là, parce que c'était très injuste. Et en même temps, il fallait bien quand même que cette belle histoire soit incarnée par quelques personnes. Et du coup, là, pour le coup, j'ai un peu laissé faire le hasard. Le hasard et le cœur. Par exemple, il y a un jeune homme qui s'appelle Andy Roux, qui est dans mon film, dont je connaissais très bien le papa, qui est décédé il y a quelques années d'un infarctus, un monsieur magnifique. Et donc Robert Roux, on avait à peu près le même âge, on a fait des bonnes fêtes ensemble, on discutait, enfin voilà, c'était quelqu'un qui avait une grande richesse humaine. Et Dieu sait que on a parlé de beaucoup de choses et il s'est jamais une seule fois vanté du sauvetage qu'avaient fait ses parents. Or, il avait chez lui la médaille de ses parents, la médaille des justes. Et vous voyez, ça a sauté une génération. Et Andy, qui reprend le flambeau de cette famille, qui est aussi une très jolie personne humaine, lui porte cette mémoire. Pour lui, c'est important. Alors, il ne le chante pas sur les toits. Mais évidemment, quand j'ai appris que Andy Roux faisait partie des familles de justes, je suis évidemment allée le voir et en toute humilité, il a accepté de parler de cette histoire. J'ai eu aussi une dame pareille, très très humble, très très fine, qui s'appelle Jacqueline Jeune, qui portait aussi la mémoire de ses parents. Donc voilà, les quelques témoins du côté des justes, c'est souvent des enfants qui racontent. Et les quelques témoins du côté des personnes juives, c'est des gens qui ont été directement concernés, soit par leur enfance, soit que c'est l'histoire, voilà, de leurs parents, en fait.
Alors, lorsqu'on réalise un documentaire avec un sujet tel que celui-ci, une fois qu'il est réalisé, qu'il est monté, qu'est-ce que vous en faites de cette distribution, du regard que vous portez sur vos travaux, sur ce sujet, sur ces personnes-là qui ne veulent pas se vanter de ce qu'ils ont fait. Voilà, entre la distribution et la diffusion à la télévision, entre la projection de ce documentaire-là comme cette date du 19 mars à venir à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Voilà, est-ce que aussi on réfléchit à la vie de son film, est-ce que vous portez un regard particulier là-dessus ?
Oui, je porte un regard très engagé d'ailleurs, parce que en fait, je considère que quand on a la chance de faire un documentaire, on est, comme disait le Petit Prince, qui est à peu près ma bible philosophique, on est responsable de ce qu'on a apprivoisé. Et donc pour moi, dans un documentaire, on a d'une certaine manière apprivoiser la confiance des personnes. Et on doit la porter, cette confiance. C'est différent, moi, qui viens du cinéma à la base et du long métrage. Bien sûr, je me suis battue pour mon long métrage, ça va de soi. Mais c'est quand même différent. C'est une histoire qu'on raconte, qu'on filme avec des acteurs, etc. Quand on est sur du documentaire, on est avec le réel. On est avec des gens en chair et en os qui ont une histoire, qui ont une sensibilité. Et donc, il faut faire en sorte que ces documentaires puissent exister. Et c'est vraiment un de mes grands combats. Je suis pas la seule. On est plusieurs réalisateurs comme ça à se battre. Parce que souvent, nos films sont produits par une production, coproduits avec une chaîne de télévision. C'est super, hein, sinon les films ne se feraient pas. Mais après, voilà, ils sont montrés une fois, deux fois. Éventuellement, les gens vont sur la plateforme quand ils sont au courant. S'ils sont pas au courant, ils y vont pas. Et ça s'arrête là. Et c'est une de mes grandes souffrances. Et pour ce film, Le silence des justes, mais pour d'autres maintenant, mais pour celui-là tout particulièrement, je me suis vraiment battue. Donc on l'a montré au cinéma. On fait des séances avec des débats, enfin avec des débats, j'aime pas ce mot-là, avec une rencontre avec le public. Donc il est déjà passé pas mal de fois dans des salles, dans la région, mais pas seulement. On est allé des fois assez loin. On continue. Et la Cinémathèque, qui sont des gens merveilleux avec qui j'aime beaucoup travailler, voilà, me l'ont aussi programmé pour avoir une rencontre avec le public. Et pour ce film-là, nous, j'ai aussi, c'est une autre histoire, mais elle est quand même un peu reliée. J'ai monté avec mon fidèle chef mixeur depuis toujours, une société qu'on appelle Nos Passerelles. Alors ça parle tout seul, Nos Passerelles à nous tous. Et on a une partie littérature et on a une partie documentaire qui consiste justement à permettre au film d'avoir une vie qui continue. Parce que j'ai remarqué chaque fois qu'on fait des séances avec le public, c'est extraordinaire d'avoir cet échange, de répondre aux questions, de retenir les remarques des gens et de se dire, voilà, ces gens qui sont dans le film, c'est juste qu'ils sont dans le film, et ces personnes juives qui ont tant souffert, tout d'un coup, ils sont honorés, il y a des gens en face de vous qui regardent. J'aime beaucoup, moi, être dans les salles et écouter, pour le coup, le silence des personnes qui assistent à une projection. Et ça, c'est très émouvant. Et c'est là où, d'ailleurs, j'aime beaucoup la télévision. J'en vis et je la regarde. Mais j'aime aussi beaucoup l'esprit cinéma. Parce que voilà, on est dans une salle, on partage ensemble un petit moment d'exception, en fait.
Alors, le silence des justes programmé donc le mardi 19 mars à 14h30, c'est à la Cinémathèque de Saint-Étienne, donc suivi d'une rencontre avec vous. C'est programmé dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, semaine de l'égalité, 3 semaines d'événements où de nombreuses structures vont organiser des manifestations ici et là sur les thématiques de l'égalité filles-garçons, sur les luttes contre les discriminations, lutte contre l'homophobie, lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Maintenant, après avoir étudié, être plongé dans une histoire, dans cette histoire récente de discrimination jusqu'à l'extermination de personnes juste par rapport à une religion, aujourd'hui, quel regard vous portez sur la société quand vous regardez le monde et même en France, beaucoup de séparation entre les gens, du vivre ensemble qui éclate. Quel regard vous portez, vous, en tant que réalisatrice de documentaires, donc quelqu'un qui regarde et qui réfléchit aussi, qui s'intéresse, ça évoque quoi ?
Alors, ça évoque à la fois beaucoup de peur et à la fois beaucoup d'espoir. Beaucoup de peur parce que on peut pas nier que il y a une montée terrible de l'extrême droite qui moi personnellement, et j'ose le dire sans problème, me fait terriblement peur. On est en train de cataloguer les gens, on est en train de tout confondre. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes qui posent des bombes. Il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui font des choses très belles. Je suis un peu moins concernée, j'ose aussi le dire, par l'inégalité homme-femme. Je pense que on est en train de gommer un petit peu ça quand même, il me semble. Enfin, ça, c'est peut-être un petit peu mon regard. Je suis beaucoup plus effrayée par la manière dont on catalogue des personnes. Et en même temps, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il y a des associations qui font des choses extraordinaires et on n'en parle pas assez, vraiment. Et du coup, les médias en général, même dans les films finalement, quand vous regardez un peu les programmations, c'est toujours pour dénoncer. On dénonce beaucoup, mais on raconte pas assez les très belles choses qui se font, les très belles initiatives qui se font. Et Dieu sait que moi, dans mes petits documentaires, j'ai rencontré et je continue à rencontrer, documentaire et hors documentaire, des gens extraordinaires pour qui ça pose aucun problème d'avoir une culture différente, une religion différente ou pas de religion, ou d'être un homme ou d'être une femme, ou enfin voilà, ou d'être un homosexuel ou pas un homosexuel. Enfin, j'allais dire humain par humain, c'est comme si on avait quand même beaucoup avancé par rapport à une époque dans une société où il y a peu de temps, les personnes homosexuelles étaient montrées du doigt. Heureusement, c'est quand même en train de disparaître. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais comme on raconte en masse ce qui se passe, on nous fait peur, il y a de quoi aussi. Il y a la guerre de partout, on est menacé de la guerre de tous les côtés. On voit des épouvantables massacres de part et d'autre, ce qui est très compliqué du coup de trouver une position. Enfin, moi, je reste très humble par rapport à ça. Je suis pas à la place ni des uns ni des autres. Ce que je trouve juste terrible, c'est que on continue à se faire la guerre, qu'on pourrait tous s'aimer et tous s'enrichir. Voilà. Et alors, c'est une vision un peu naïve de ma part, hormis les extrêmes qui me font très peur. Tous les extrêmes me font très peur. Mais hormis ça, je trouve que l'humain, il peut au contraire, quand on va puiser ce qu'il y a de beau chez lui encore une fois, et qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer, ils peuvent faire de très belles choses. Et donc, c'est mon côté de garder de l'espoir. Parce que je pense que si on donne plus de place, si on donnait plus de place aux personnes qui ont envie de faire des belles choses, eh ben, il y aurait des belles choses qui seraient connues. Parce qu'il y en a qui existent, mais qui sont pas assez connus. Et du coup, elles seraient connues. Et du coup, elles donneraient un bel exemple aux autres personnes.
Alors, les belles choses que vous donnez à connaître, c'est ce documentaire Le silence des justes, qui sera donc diffusé ce mardi 19 mars à la Cinémathèque de Saint-Étienne. C'est l'adresse rue Jo Goudbarge. Merci Caroline Puig-Grenotier d'être venue sur l'antenne de Radio Andenne et à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.